à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Claire Morin-Gibourg en direct de la capitale américaine. Jeudi 14 mars 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
En RDC, la décision de Félix Tshisekedi de gracier 700 prisonniers politiques suscite des réactions.
Crash d'Ethiopian Airlines, les boîtes noires ont été réceptionnées par les enquêteurs en France.
En Syrie, les forces démocratiques syriennes tentent de briser les dernières défenses des irréductibles du groupe État islamique.
Et puis dans la partie magazine, nous découvrirons une voiture entièrement fabriquée au Cameroun.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
Ce soir dans l'actualité africaine, réaction positive en RDC suite à la décision du président Félix Tshisekedi de gracier quelques 700 prisonniers d'opinion. Nous y reviendrons dans la partie magazine.
Toujours en RDC, venir à bout de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays prendrait encore 6 mois à condition que la situation sécuritaire s'y prête. C'est ce qu'a fait savoir l'Organisation mondiale de la santé. Les précisions de Lionel Gaïma.
La mise à jour a été faite à Genève par le directeur général de l'OMS qui rentre d'un séjour en RDC. L'épidémie d'Ebola a été contenue dans la province du Nord Kivu et ne s'est pas étendue à d'autres parties du pays ou aux pays voisins, a expliqué le docteur Tedros Adhanom, preuve selon lui du succès de la lutte contre la maladie, malgré une situation incroyablement difficile. Selon le directeur de l'OMS, le nombre de nouveaux cas a été réduit de moitié depuis janvier, avec une moyenne de 25 cas par semaine contre 50 en début de l'année. L'OMS se donne pour mission d'éradiquer le virus Ebola en RDC dans les 6 prochains mois, a dit le patron de l'agence onusienne, tout en soulignant la nécessité de planifier au-delà pour se préparer à toute éventualité. Suite aux attaques contre 2 centres de traitement de malades de l'Ebola à Katoa et à Butembo dans le Nord Kivu, l'ONG Médecins Sans Frontières a suspendu ses activités, déplorant une militarisation de la réponse à l'épidémie ainsi que le manque de confiance des communautés affectées.
Dans le nord-est du Burundi, 6 écolières de la province de Kirundo ont été arrêtées mardi et placées en garde à vue. On leur reproche des gribouillages sur une photo du président Pierre Kourounziza dans des manuels scolaires. C'est ce que rapporte l'AFP, citant une ONG et un enseignant.
Gabon, la Cour constitutionnelle dénonce une cabale menée à son encontre par ceux qui l'accusent de refuser de constater la vacance du pouvoir en l'absence du président Ali Bongo Ondimba. Depuis 4 mois, l'opposition a plusieurs fois appelé les autorités à saisir la Cour afin qu'elle déclare une vacance de pouvoir en l'absence du président en convalescence au Maroc après un accident vasculaire cérébral en octobre.
Un général de division français en retraite dénonce les fautes de Paris au Rwanda avant et pendant le génocide de 1994. Et ce, dans un entretien à Mediapart et à Radio France diffusé jeudi. Aujourd'hui âgé de 84 ans, Jean Varret affirme que le colonel rwandais Pierre-Célestin Rwagafilita lui aurait demandé des armes lourdes, expliquant, et je cite, « Les Tutsis ne sont pas très nombreux, on va les liquider ».
Procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, le ministre de la Défense, Chérif Sy, a incriminé l'ex-président de l'Assemblée ivoirienne, Guillaume Soro, dans son témoignage. Selon Chérif Sy, qui était à l'époque du putsch président du Parlement intérimaire burkinabé, Guillaume Soro a reconnu devant lui la véracité d'une écoute téléphonique dans laquelle ce dernier semble affirmer son soutien au putsch.
Les boîtes noires du Boeing 737 MAX qui s'est écrasé dimanche en Éthiopie ont été réceptionnées en France par une agence chargée d'en extraire les données à la suite du crash et l'immobilisation de tous les avions du même modèle dans le monde. Jacques Aristide.
C'est le Bureau d'enquête et d'analyse, BEA, un organisme public français qui doit assister les autorités éthiopiennes pour décrypter les 2 boîtes noires de l'appareil. L'Éthiopie ne dispose pas de l'équipement nécessaire pour les analyser. Le BEA indique que les autorités éthiopiennes communiqueront elles-mêmes sur les progrès de l'enquête. D'après la FAA, le régulateur aérien américain, ces boîtes noires ont été endommagées pendant l'accident, le Boeing d'Ethiopian Airlines ayant été pulvérisé à l'impact. Un crash qui a fait 157 morts, le second en moins de 6 mois pour ce même type de Boeing, dans des circonstances similaires. Hier, le président américain Donald Trump a annoncé que tous les Boeing 737 MAX 8 et 9 allaient être cloués au sol aux États-Unis. Il s'est ainsi rallié au consensus international sur ce nouvel avion du constructeur américain. Le PDG de Boeing a dit renouveler sa confiance totale en la sécurité de cet appareil. La recommandation d'immobiliser temporairement ces avions, selon Denis Muilenberg, était à l'initiative du constructeur pour rassurer le grand public.
Manifestation au Soudan, un rassemblement s'est tenu dans la capitale Khartoum où le nouveau gouvernement a prêté serment. Le Soudan est théâtre depuis décembre d'un mouvement réclamant la démission du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 89. Après plusieurs semaines de répression, le président a décrété l'état d'urgence en février.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le président français Emmanuel Macron a co-présidé au Kenya le One Planet Summit, cette réunion internationale sur les changements climatiques qui avait lieu pour la première fois sur le continent africain. Le président français appelle à placer l'environnement au cœur des choix économiques et à des partenariats respectueux, ce sont ses termes, avec les pays de la région, contrairement à ceux qui menaceraient la souveraineté des États. Une critique à peine voilée aux investissements chinois à grande échelle en Afrique de l'Est.
En Syrie, les forces démocratiques soutenues par les raids aériens d'une coalition internationale tentent de briser les dernières défenses des irréductibles du groupe État islamique dans l'Est du pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Depuis la reprise de l'assaut dimanche, les bombardements les plus violents sont menés surtout de nuit. Les unités de protection du peuple, la milice kurde qui domine les forces démocratiques syriennes, ont assuré que la bataille allait désormais se poursuivre jour et nuit. Plusieurs milliers de membres de famille des combattants du groupe État islamique ont quitté le dernier bout de terre du califat autoproclamé par les djihadistes en 2014, à cheval entre l'Irak et la Syrie. Depuis lundi, 3000 djihadistes présumés se sont rendus, d'après Mustapha Bali, porte-parole des FDS. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évalue à 60 000 le nombre de personnes évacuées de l'ultime poche djihadiste depuis décembre. L'exode a provoqué une crise humanitaire dans les camps de déplacés tenus par les forces kurdes. L'ONG Save the Children fait état de plus de 3500 enfants étrangers qui vivraient dans les camps du Nord-Ouest. D'après l'ONG Comité international de secours, 120 personnes sont mortes en route ou peu après leur arrivée au camp d'Al-Hol. Une nouvelle conférence des donateurs s'est ouverte mardi à Bruxelles avec l'objectif de mobiliser près de 9 milliards de dollars pour aider les réfugiés syriens.
Ici aux États-Unis, le Sénat vote aujourd'hui pour désapprouver la déclaration nationale d'urgence du président Donald Trump visant à financer la construction de murs le long de la frontière américano-mexicaine. Nathalie Barge.
Certains républicains au Sénat se sont engagés à se joindre aux démocrates pour rejeter la déclaration d'urgence, assurant ainsi le passage de la mesure de désapprobation dans une chambre où les républicains disposent de la majorité. De nombreux républicains ont exprimé leur malaise face à cette déclaration d'urgence nationale, mais la plupart d'entre eux devraient voter contre la mesure, invoquant un besoin urgent de sécuriser la frontière sud. Le président Donald Trump a indiqué sur Twitter être prêt à opposer son veto si nécessaire, estimant que la frontière sud est un cauchemar sécuritaire pour la sécurité nationale et humanitaire. Alors que le Sénat s'apprêtait à voter, des républicains ont présenté un projet visant à limiter la loi sur les urgences nationales. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré que ce texte ne passera pas au Congrès. Outre l'action du Congrès, la déclaration d'urgence est contestée devant le système judiciaire fédéral, qui peut avoir le dernier mot quant à savoir si elle survivra ou non.
Donald Trump a de nouveau exprimé aujourd'hui son optimisme concernant un futur accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Devant des journalistes à la Maison-Blanche, le président américain a affirmé que les négociations en cours progressaient très bien. De son côté, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a estimé que le conflit commercial entre les deux puissances devrait être résolu dans un avenir proche.
Et toujours ici aux États-Unis, Beto O'Rourke, ancien élu de la Chambre des représentants, a annoncé sa candidature pour tenter de battre Donald Trump à la présidentielle de 2020. C'est le 14e démocrate à se lancer dans la course. Dans sa vidéo de candidature, il évoque l'immigration. C'est le meilleur problème que l'Amérique puisse avoir, dit-il, en appelant à des solutions pour que les immigrés puissent travailler, être avec leur famille et fuir les persécutions.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nanit Talani.
La compagnie italienne Eni vient de découvrir un gisement majeur de pétrole léger en eau profonde en Angola avec le puits Agogo 1 NFW à environ 180 km au large des côtes angolaises. Selon l'agence Ecofin, ce gisement pourrait contenir au minimum entre 450 et 650 millions de barils. Un tribunal parisien a rejeté la plainte contre le Burkina Faso déposée par le groupe panafricain Frank Tim's Pan African Minerals Group dans le cadre d'un différend portant sur l'une des plus grandes mines de manganèse au monde. Le tribunal arbitral a estimé que la résiliation du contrat par le Burkina était valide et justifiée en droit. Le gouvernement burkinabé s'en réjouit car cela lui permet de reprendre le contrôle du gisement. Terminons cette minute éco avec le groupe MTN qui s'attend à ce que sa filiale nigériane soit inscrite à la bourse locale, probablement vers avril ou mai.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
La vague de publication des listes pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 se poursuit.
Oui, le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussier, a dévoilé une liste de 23 joueurs pour le match contre le Togo. De Cotonou, notre correspondant Élisée Mpatine nous fait le point.
La liste très attendue par les Béninois est enfin dévoilée. Michel Dussier a fait appel aux cadres et aux habitués de la sélection pour défier le Togo le 24 mars prochain et tenter d'arracher une troisième qualification à une CAN au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Le technicien français rassure que cette liste va qualifier le Bénin.
C'est la liste des joueurs qui vont nous amener à la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, c'est je formule le vœu que ce soit le cas et je travaille dans ce sens. Vous l'avez dit, j'essaie de prendre beaucoup d'informations sur tous les joueurs qui sont susceptibles de venir nous aider. Je m'intéresse aux championnats locaux, je m'intéresse aux binationaux, je m'intéresse aux Béninois qui sont expatriés, je m'intéresse à tout le monde.
Pour Michel Dussus, l'enjeu est de taille vu l'adversaire en face. Et il a déjà expliqué aux joueurs qu'il a sélectionnés.
Je pense que tous les joueurs sont conscients de l'enjeu. Ils sont tous responsables, ils sont tous motivés aussi pour ce billet qualificatif à la CAN. Certains d'entre eux sont passés près, malheureusement après le match de Bamako, ça a été une souffrance pour eux, pour tout le monde. Et puis ceux qui n'y ont pas participé, ils ont très envie aussi de découvrir la Coupe d'Afrique des Nations.
Il faut préciser que Michel Dussuet, habitué à ce genre de match, a appelé de nouveaux joueurs. Ainsi, l'attaquant Yannick Agrémont, les milieux Patrick Sedjamer, Rodrigue Kossi et le gardien de but Shérif Dine Kakpo sont convoqués pour la première fois, alors que Maman Seibou, Anand Tijani et Rodrigue Fassinou font leur retour dans le groupe des écureuils. Cotonou, Élisée Rumpati, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le sélectionneur est resté fidèle à son noyau dur.
Et oui, Ibrahim Camara n'a appelé ni le défenseur central Damien Prince Désiré Guano, qui a récemment déclaré sa flamme aux éléphants, ni Gervinho en forme avec Parme. À l'inverse, Simon Deli, Wolon Koulibaly ou encore Abdoulaye Bamba signent leur retour avec l'espoir de marquer des points à 3 mois de la compétition. Pour le reste, les cadres Bailly, Aurier, Sérédier, Seri, Gradet, Pépé, Zaha et Kodia sont tous présents. Déjà qualifiés, la Côte d'Ivoire achève les éliminatoires en offrant l'hospitalité au Rwanda le 23 mars avant d'affronter le Libéria en amical 3 jours plus tard.
Athlétisme, les Kenyans fustigent la réforme de la Ligue de Diamants.
Oui, plusieurs membres de la Fédération kényane d'athlétisme s'insurgent contre la décision de la Fédération internationale de supprimer plusieurs épreuves de la Ligue de Diamants, notamment le 5000 mètres. Ils la jugent illégitime et totalement injuste. Ces distances longues, à l'instar du 10 000 mètres qui doit aussi disparaître à partir de 2020, sont historiquement un vivier de médailles pour le Kenya, performant sur les courses de fond tout comme l'Éthiopie.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec et Claire Morin-Gibourg. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Nairobi, capitale de l'environnement depuis lundi et ce jusqu'à demain vendredi. La 4e assemblée de l'ONU pour l'environnement réunit plus de 4700 officiels, dont des chefs d'État et des dirigeants de multinationales et d'ONG dans la capitale kényane. Le but de ce sommet, appelé One Planet, est de trouver des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux. Yakuba Ouedraogo.
Élu champion de la Terre par les Nations Unies en septembre dernier, le président Emmanuel Macron, coprésident de ce 4e sommet One Planet, a appelé à agir urgemment.
Nous croyons qu'il nous faut, face à la situation que nous vivons, mettre en place du véritable droit, c'est-à-dire mettre en place des règles contraignantes que nous puissions adapter sur le plan international. La biosphère menace de s'effondrer, l'humanité est en sursis, on ne peut pas simplement répondre par de beaux principes sans portée concrète.
Selon les experts, au moins 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année et se brisent en micro-fragments pour se retrouver dans la chaîne alimentaire marine. Les pays sont donc invités à utiliser beaucoup plus les énergies renouvelables et à recycler les objets. Cependant, le hic, c'est le manque d'un cadre légal contraignant, d'où la nécessité de doter le monde d'un texte juridique. Emmanuel Macron.
Nous devons construire ensemble le premier traité international pour l'environnement qui sera pour les États, pour les entreprises, pour les citoyens du monde une boussole.
L'Afrique s'est vue promettre un certain nombre d'investissements verts, elle qui ressent les pires impacts du changement climatique alors qu'elle émet le moins de gaz à effet de serre. Malgré tout, le continent veut mieux faire. Le président kényan s'est engagé pour son pays, Uhuru Kenyatta.
Au nom du Kenya, de notre gouvernement et de notre peuple, je promets qu'au plus tard en 2022, nous allons atteindre un minimum de 10% de couverture forestière dans notre pays. C'est notre moyen d'assurer que nous jouions notre rôle en tant que gouvernement, peuple et membre de la communauté mondiale.
Pour sa part, le président français a promis d'augmenter de 1 à 1,5 milliard d'euros les financements de son pays en faveur de l'environnement d'ici la fin de son mandat.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, dans ce Washington Forum, la situation en Algérie. Après des semaines de manifestations, le président Abdelaziz Bouteflika a renoncé à briguer un cinquième mandat. Il a reporté sine die l'élection présidentielle du 18 avril et entend se maintenir au pouvoir d'ici là. Les manifestants rejettent toute prolongation de son mandat. Manœuvre ou véritable retrait du président algérien, cette transition politique va-t-elle satisfaire l'aspiration du peuple qui, pour succéder à Abdelaziz Bouteflika, nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
En RDC, la population de Kinshasa et la Lucha saluent la mesure de grâce du président Félix Tshisekedi dont vont bénéficier près de 700 prisonniers politiques et d'opinion. Parmi eux, les opposants Franck Diongo et Firmin Yangambi, arrêtés sous le régime de Joseph Kabila. La mesure a été annoncée hier soir et s'inscrit dans le cadre de ses promesses électorales. De Kinshasa, les précisions de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
Environ 700 détenus bénéficiant de cette mesure de grâce présidentielle sont remis en liberté. Parmi eux, l'opposant Franck Diongo, arrêté en 2016 et condamné à 5 ans de prison pour séquestration de 3 militaires de la garde républicaine, ainsi que l'activiste des droits de l'homme Firmé Yangambi, condamné à mort en 2010 par la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour détention illégale d'armes de guerre et tentative d'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Ils faisaient tous deux partie des cadis emblématiques des prisonniers politiques sur lesquels l'opposition insistait depuis 2016 aux discussions du dialogue de la Saint-Sylvestre sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les activistes des droits de l'homme de la Lucha, lutte pour les changements, saluent la libération de Firmé Yangambi et de tous les autres prisonniers politiques et d'opinion. Stéphane Mukindi, militant de la Lucha, appelle par ailleurs le président Tshisekedi à libérer d'autres prisonniers injustement arrêtés.
La Lucha a reçu cette nouvelle avec beaucoup de jouissance puisque le compatriote que M. Kabila faisait croupir injustement en prison doivent retrouver leur liberté. Et de ce fait, nous saluons à sa juste valeur le geste du président Félix-Antoine Tshisekedi. Par ailleurs, nous pensons à tous les autres compatriotes qui ont été arrêtés en marge des manifestations publiques depuis 2015 jusqu'à décembre 2018 et qui malheureusement continuent à croupir en prison. Et au président Félix Tshisekedi de tout mettre en œuvre pour que toutes ces personnes soient libérées le plus vite possible.
Satisfaction à moitié par contre à la coalition La Mouka de Martin Fayoulou. L'un de ses porte-paroles, Steve Kivuata, regrette que d'autres prisonniers emblématiques n'aient pas bénéficié de la même mesure.
Le président proclamé a pris des mesures de grâce, mais du moins, ce qui est regrettable, c'est qu'il y a deux cas emblématiques qui n'ont pas été concernés. Le cas de Eugène Diomi Ndongala, Némoi Nansemi, et le cas de Dick Appin, qui pouvait nous démontrer, lui en tant que président, n'a pas les mains liées à travers un accord secret. Donc il nous laisse sur notre soif.
Dans les rues de Kinshasa, la mesure de grâce présidentielle est unanimement saluée. La population demande par ailleurs au président de la République de faire plus dans l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo.
L'acte vient de poser le président de la République et c'est un acte vraiment encourageant parce que nous espérons que le changement. Il y en a beaucoup d'autres parmi les prisonniers politiques qui ont été incarcérés injustement. Alors c'est vraiment une bonne action.
Il a promis, il a réalisé, on ne peut que dire coup de chapeau, parce que c'est un homme d'État, c'est un homme de parole. Nous ne pouvons que lui dire merci, mais libérer les prisonniers c'est bien bon, mais il faut aussi s'occuper de desiderata de la population. Moi je pense que ce serait une très bonne chose, mais jusqu'à là il est sur la bonne voie.
Bon, c'est bien, ce que le président a fait, c'est bien, comme il a pris la décision de faire sortir tous ces prisonniers qui étaient arrêtés pour le problème politique. Il a bien fait.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
L'administration américaine a fini par céder à la pression. Le président Donald Trump a annoncé hier que tous les Boeing 737 MAX 8 et 9 allaient être cloués au sol, se ralliant au consensus international sur ce nouvel avion du constructeur américain après deux accidents tragiques en moins de 5 mois. Selon la FAA, le régulateur aérien américain, la décision est justifiée par de nouvelles données satellitaires fournies par le Canada, montrant que la trajectoire de l'avion d'Ethiopian Airlines, qui s'est écrasé et dimanche présente des similarités avec celle de Lion Air accidentée fin octobre. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Bertrand Wilmer, directeur du cabinet d'aéronautique ICAR, ancien pilote d'essai, président de la Compagnie nationale des experts de justice aéronautique et spatiale français.
Céder à la pression, c'est exactement ça. C'est la première fois dans l'histoire de l'aéronautique mondiale. C'est une situation inédite. Ou s'il y a un phénomène qu'en France, on connaît bien, qui s'appelle le phénomène gilet jaune. Il n'y a que c'est la base qui force la décision au sommet. Tout le monde aurait fini par ne plus accepter le 737, sauf les États-Unis. Et les États-Unis, sans passagers. Et avec des syndicats de pilotes qui ne voulaient plus en entendre parler. Donc, ça aurait été une situation complètement ubuesque, où la seule structure qui souhaitait laisser l'appareil en vol est justement celle qui doit vérifier ses navigabilités, et c'est là où ça a pêché.
Pour de nombreux médias, cette décision tardive décrédibilise le régulateur aérien américain, la FAA. Qu'en pensez-vous?
Dans cet appareil, il y a trois problèmes. Il y a un défaut de conception, il y a un défaut de certification et il y a un défaut de procédure. Et défaut de conception, le Boeing en fait l'aveu, puisque la FAA a imposé 3 modifications. Là, on ne parle pas de vérification, on parle de modification en profondeur. C'est un travail titanesque. Donc, le fait que la FAA demande à Boeing de faire des modifications sur un appareil neuf, alors qu'il vient d'être certifié, c'est un constat d'échec de leur service. Et deuxième point, c'est que la FAA dit « oui, le deuxième vol présente des similitudes avec le premier, donc il faut arrêter l'appareil de vol ». J'en conclus que pour arrêter l'appareil de vol, il faut avoir 2 échecs. Un seul ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ils ont appris depuis l'Éthiopienne ? Rien. Tous les éléments qu'ils ont, c'est le rapport préliminaire du vol du Lyonnais.
Justement, les boîtes noires n'ont pas encore été décryptées. D'ailleurs, elles viennent d'être réceptionnées en France. Et pour l'heure, il n'y a aucune preuve liant le crash en Éthiopie à celui au large de l'Indonésie en octobre dernier, n'est-ce pas ?
Preuve, je ne suis pas. Il y a des indices. Le premier indice, c'est que c'est des appareils qui ont quasiment les mêmes numéros de série. Ils sont tous les deux tout neufs. Le deuxième indice, c'est que les pilotes ont demandé à chaque fois à faire demi-tour. Le troisième indice, c'est qu'on sait, par la boîte noire du premier et par un logiciel que tout le monde connaît qui s'appelle Flat Radar, qu'il y a eu des oscillations d'altitude pendant le décollage, ce qui est absolument aberrant. Quand un avion se met en montée, il passe pas son temps à monter, à descendre, à monter, à descendre, à monter, à descendre pendant qu'il monte. Et à la fin, on voit très bien qu'il y a une mise en piqué. Donc ça, c'est factuel.
La crise chez Boeing va-t-elle chambouler les rapports de force dans le ciel mondial ?
Non. Non, il y a 2 gros avionneurs, il y en a que 2. La Russie et la Chine sont 15 ans, voire 20 ans derrière. Non, les 2 constructeurs, c'est des constructeurs sérieux. C'est des constructeurs de grande qualité. Boeing est une superbe machine, 150 000 employés, 1 200 milliards de carnets de commandes, près de 8 000 avions. Je pense que ça ne va pas affecter Boeing. Mais par contre, ça va affecter, évidemment, il y aura un trou de terre pour cette structure. Il y aura des reports de commandes, il y aura des pénalités, il y aura des transformations de commandes de 737 MAX en 737 NG. Ce qui est déjà fait Norvégian d'ailleurs, pour pouvoir voler, parce que les compagnies vont perdre des clients. Là. Mais que Boeing soit menacé, absolument pas. Par contre, la FAA, oui, la FAA est décrédibilisée. La cause de l'accident, c'est un problème de certification. Que les industriels se trompent dans la conception d'un système, ça peut arriver. Mais que l'organisme de certification passe à côté, c'est pas possible, parce que leur rôle, c'est justement d'éviter ça.
Voilà, c'était l'ancien pilote d'essai Bertrand Villemer, directeur du cabinet d'aéronautique ICAR, joint à Paris.
Et pour finir cette édition, nous vous parlons d'une voiture made in Cameroun, c'est-à-dire réalisée entièrement au Cameroun. Elle est l'œuvre du jeune mécanicien Cédric Simen qui l'a présentée à Bafoussam, dans l'ouest du pays. Ce véhicule tout-terrain, fabriqué à partir de pièces recyclées, ne manque pas d'attirer l'attention du public. Blanche Sanou.
Cédric ne passe pas inaperçu lorsqu'il parcourt les rues de Bafoussam au volant de sa pick-up. Fabriqué à partir de pièces recyclées, le petit camion bleu attire beaucoup de regards, comme le témoigne Léopold Kamdem, un chauffeur de taxi.
Étant chauffeur, j'ai contrôlé ça, tous les accessoires qu'une voiture doit avoir. Je suis assis confortablement, une voiture de 2 places, et ça, tous les accessoires. Je suis même surpris d'arriver dedans, je constate que le tableau de bord fonctionne. Comme toutes les voitures, donc vraiment, c'est un génie.
Ingénieux pour certains, Cédric est avant tout débrouillard. Après avoir quitté l'école à 11 ans, il a appris la mécanique automobile dans l'atelier de son oncle, où il fabriquait des modèles réduits de voitures en bambou. Transformant cette passion d'enfance en réalité, il a consacré toutes ses économies à la création de ce véhicule écologique. Cédric Simen, mécanicien et inventeur de la voiture made in Cameroun, se souvient encore de ses débuts.
J'ai payé du matériel avant de la transformer comme je veux. Et il y a aussi certaines pièces de récupération que j'ai achetées comme amortisseurs, pneus, moteurs et autres petites pièces. Mais déjà, la carrosserie et les essieux sont faits sur place.
La création de Cédric suscite un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Il espère que cet intérêt l'aidera à développer et améliorer ses créations. Aladji Mohamed, un commerçant, plaide pour sa cause.
Et je vais profiter pour demander à l'État du Cameroun qu'on essaye de mettre ces personnes qui ont des idées un peu élevées dans de meilleures conditions pour qu'ils nous aident à produire des voitures comme ça pour aider les Camerounais ou le monde entier.
Cédric attend un partenariat avec le gouvernement camerounais. Mais déjà, il reçoit des commandes privées du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Ces prochains modèles pourraient être équipés de moteurs électriques, ce qui rendrait les petites voitures encore plus écologiques.
Fin de cette édition, à la mise en onde Georges Léonard Sagno, à la console Miraël Dubinski, à la présentation Morgane Guériec et Claire Morin-Gibourg.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Afrique, les infos.